France Musique. France Musique, les grands entretiens. Laurent Villarem.
Je m'appelle David Grimal, je suis né le 9 février 1973 à Châtenay-Malabry et je suis violoniste et chef d'orchestre, pas comme les autres.
David Grimal, est-ce que je peux vous demander de... Je vois le Stradivarius juste à côté de nous, d'aller le chercher, de le prendre entre vos mains.
Oui, bah, je vais le chercher, oui.
Vous attendez.
On entend.
Et c'est un Stradivarius, hein, c'est ça, hein.
C'est un Stradivarius, oui.
Et c'est le violon dont vous rêviez ou...
Oh, j'ai jamais rêvé d'avoir un violon pareil, non, c'est... C'est un violon qui m'est tombé dessus il y a 28 ans, alors que j'étais encore étudiant au conservatoire en troisième cycle chez Régis et chez Hirschhorn à Bruxelles. Donc il m'est arrivé dessus ce violon. Et puis il m'accompagne depuis, c'est extraordinaire, c'est un compagnon de route extraordinaire et merveilleux. Je dirais que je commence à peine à comprendre comment ça fonctionne, donc c'est bien Stradivarius, il nous apprend tous les jours.
Vous êtes entendu tout de suite bien avec lui ou il y a eu des
les
petites...
Les premiers instants ont été merveilleux, mais parce que j'étais aux innocents, les mains pleines, c'est-à-dire je comprenais rien, je jouais, et puis voilà. Et puis après on a eu des moments où on se comprenait moins bien, je le prenais pas comme il fallait, je crois. Les Stradivarius sont des violons extrêmement subtils et qui ne supportent pas la brutalité ou la tension. Et donc il faut toujours les aborder avec beaucoup de doigté, beaucoup de tact pour en obtenir le meilleur.
Ne pas passer en force. Hein.
Jamais. Et donc selon les périodes de la vie, parce qu'il y a des périodes de la vie où on est plus ou moins en forme, il a plus ou moins bien résonné avec moi. Mais là en ce moment, on s'entend très très bien.
Et vous saviez à qui il appartenait avant ?
Il appartenait très longtemps. Elia Erduran, qui est une violoniste turque. Il avait été acheté pour elle, je crois, par son manager, qui était un Arménien, comme quoi.
Et la musique rapproche les peuples.
Ça peut.
Comment vous pourriez décrire votre violon ?
Très aristocratique. Assez puissant, mais avec un très beau timbre. Et chaleureux, mais toujours avec une certaine retenue quand même. Et avec une grande pureté sur les aigus. Oui, un violon très racé, quoi.
Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre jeu ?
En fait, c'est comme si vous êtes peintre et vous avez toutes les couleurs. Vous avez toutes ces couleurs, toutes ces possibilités. Au départ, ça vous montre que vous savez pas peindre. Donc, ça vous apprend à peindre. Et puis, les jours où vous êtes inspiré, vous êtes porté. Donc, les jours où vous êtes inspiré, c'est merveilleux. Et les jours où vous n'êtes pas inspiré, il vous le montre. Il y a les archets aussi. J'ai des archets de toutes les époques dans ma boîte. Pour les concertos de Mozart, j'ai un archet classique qui a été conçu pour moi par Pierre Grimberger, qui est un ami archetier. Pour Bach, j'ai un archet baroque de Louis Tourte, qui est le père de François-Xavier Tourte, qui est un archet baroque absolument extraordinaire, avec une sonorité extraordinaire. Mais avec cet archet, je change les cordes du violon, je mets des cordes en boyau. Et puis après, j'ai des archets modernes de Pierre Grimberger pour le concerto de Bartok, le concerto de Prokofiev, ou les sonates d'Isaïe, par exemple, que j'ai enregistré sur un archet, qui venait de terminer, il me l'a apporté dans l'église, et je l'ai pris, puis paf, j'ai fait mon disque avec. Et tous ces archets, en fait, qui s'adaptent au répertoire. Donc c'est un petit peu aussi l'approche, entre guillemets, historique, mais relative, parce que je ne change pas de violon.
Il faudrait que j'aie un violon monté baroque si je voulais vraiment être faire les choses comme il faut. Et dans l'avenir aussi, j'aimerais beaucoup jouer avec des pianos d'époque, avec... Enfin, c'est tout un monde que j'ai envie encore d'explorer. J'essaie toujours, mais ça doit être mes origines de fils d'égyptologue, petit-fils de latiniste et d'helléniste. J'essaie toujours d'avoir une approche de linguiste un peu quand même par rapport aux esthétiques, par rapport au langage. Donc, considérer la musique comme un langage avec ses règles. Donc ça, pour moi, c'est encore des tas de choses à explorer, à approfondir et qui me passionnent, en fait. Donc je pense qu'il y avait quelque chose d'extrêmement... excitant et fertile là-dedans. Et moi, j'ai envie d'être là où la fertilité se trouve, ou
quitte à la créer avec les dissonances.
Quitte à la créer. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est évidemment ça. Pour ça, tout à l'heure, vous parlez de la routine. Je ne lutte pas contre la routine. La routine, pour moi, est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existera jamais, en fait. Ça n'a jamais existé, ça ne va pas changer. Mais c'est vrai que vous me demandiez aussi, vous me disiez, oui, peut-être au bout de 15 ans, les dissonances, ça doit s'arrêter. Je pense que les dissonances devront s'arrêter, d'abord si elles s'arrêtent, effectivement. Donc ça va être la réponse aux questions que je vais poser, je vais l'avoir très vite. Mais si jamais la réponse est, oui, vous avez raison, on y va, c'est formidable, la vitalité du projet est toujours là. Donc il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Mais c'est, en revanche, le jour où je vais me retrouver avec les musiciens et qu'on va être dans une espèce de redite de quelque chose... Là, il faudra que ça s'arrête. Mais ça ne sera pas forcément le rythme biologique des institutions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que ça, je l'ai hérité d'Hirschhorn, ça, certainement. Et ça, c'est le côté positif de ce qu'il m'a donné.
Ah, parce qu'il y a un côté négatif?
Oui, l'exigence mortifère. Et puis aussi le sentiment d'échec, quand même, qu'il a eu dans sa vie. C'est quand même pas quelqu'un qui a fait la carrière qu'il aurait pu faire. Qu'il aurait dû faire d'un point de vue artistique. Après, il a fait la carrière qu'il a faite parce qu'il n'a pas pu faire autrement d'un point de vue humain, puis c'est l'histoire. Et puis le monde est ce qu'il est. Mais le côté le plus positif qui m'a transmis, c'est certainement cette vitalité et toujours cette envie de quelque chose de spécial, quoi, qui est quand même ce pourquoi on devrait faire notre vie de musicien. Et qui est aussi une phrase que m'avait dit ma première professeure de violon, qui s'appelle Raphaël Desgraviers. C'était une magnifique violoniste, femme d'une grande famille, comme ça, d'un autre temps. Elle n'avait pas eu une vie facile, en fait. Et elle m'avait dit, tu sais, mon petit garçon, la petite lumière qui brille dans tes yeux et que tu as dans ton cœur avec la musique et qui fait que tu es si spécial, il ne faut jamais la perdre. Et ça, c'était la plus belle leçon que j'ai eue de ma vie. Et Hirschhorn, il a ranimé cette lumière et tous ses projets et toutes ses rencontres. Comme ces sourires de la semaine dernière en Finlande de ces gens qui se sont dépassés, eh bien, pour moi, c'est cette lumière-là. Et en fait, c'est cette lumière qui guide absolument tout ce que je fais.
Paraît actuellement deux disques chez la Dolce Volta, où oui, ce sont trois œuvres solistes, et vous faites paraître également les six sonates d'Isaïe. Est-ce que cette carrière de soliste, elle a toujours été là?
Oui, elle a toujours été là, bien sûr. Mais après, j'ai des enfants qui sont petits, donc les dix dernières années, j'ai été aussi très attentif à l'équilibre de la famille. Et donc j'enseigne en Allemagne, j'ai développé les dissonances, j'ai fait toujours beaucoup de choses, j'ai fait toujours des concerts en soliste. Même si depuis 4-5 ans, j'ai arrêté de jouer avec des chefs d'orchestre parce que j'avais pas des relations dans lesquelles je trouvais suffisamment d'espace, ce qui est assez compréhensible vu tout ce que je viens de vous raconter.
Vous avez une petite anecdote croustillante, une expérience qui se passe mal avec un chef d'orchestre?
Ah oui, la dernière expérience, c'était, je vais pas citer de nom parce que c'est pas la peine.
Mais
c'était avec un grand orchestre et puis avec un grand chef. Et je jouais le concerto de Berg. Et j'étais en répétition, ça se passait tout à fait bien, jusqu'au moment où la flûte ou la clarinette, je ne sais plus, à un moment doit faire une gamme, et j'attends juste que la gamme commence, parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Le chef arrête et me regarde furieux en montrant son bras et en me disant qu'il faut suivre le bras. Et là, j'ai eu le sang qui m'est monté à la tête. J'ai failli...
Mettre le violon dans la tête.
Ah oui, j'ai failli partir, en fait. Parce que je trouvais que c'était tellement pas ça, la musique. Enfin, c'était tellement le contraire de tout ce en quoi je crois, en fait, comme manière de travailler. Et à l'issue de ce concert, où j'ai décidé que je ne travaillerai plus comme ça.
Et le concert s'est bien passé ?
Non, le concert, c'est pas... Non, j'ai aucun plaisir. Je veux dire, non. Enfin, c'était correct. Il y a une bande, c'est très beau, mais... J'ai pas eu de plaisir à être là. Je vois pas en quoi c'est acceptable, ça, en fait. Mais j'ai toujours continué à jouer, bien sûr.
Entretien de David Grimal.
Votre génération, vous êtes la génération de 75, c'est un peu une génération entre deux. Il y a des musiciens comme Ophélie Gaillard, Renaud Capuçon, Vanessa Wagner. Elle a quoi, cette génération ?
Je sais pas, je me suis jamais posé la question, tiens. C'est peut-être un moment de bascule, hein, parce que cette génération, elle éclot 20 ans plus tard, donc au début des années 90. Et dans les années 70, il y a encore la présence... je crois, de la démocratie social-démocrate. Il y a encore la présence du bloc soviétique et il y a encore la présence de la culture comme un sujet. Alors, ça peut être un sujet de propagande, hein, évidemment, ça a toujours été le cas. Et je crois que dans les années 90, il y a une transformation de ce sujet en objet de consommation. Et donc, cette génération, en fait... elle est faite, à mon avis, de deux groupes. Les musiciens qui sont toujours dans l'idée qu'ils servent une grande cause, connectés à une forme de spiritualité, d'exigence, qui serait plutôt dans la lignée de la culture vue par Malraux. Donc vue,
c'est vous, ça, non ?
Un peu. Vue par mes parents, par mes grands-parents. Donc une culture qui est là pour éduquer, pour élever, pour aller plus loin, exigeante. Et puis d'autres qui ont compris qu'on basculait dans un monde... plus commerçant, de communication, on va dire, où la culture s'est transformée en objet de communication, et qui ont très bien compris qu'ils étaient dans un marché, en réalité. Et je crois que cette génération, il y a quelque chose d'assez symbolique là-dedans, d'un changement de monde, d'un changement de paradigme, que certains ont compris, ont su utiliser pour construire leur carrière, et que d'autres musiciens n'ont pas compris, parce que c'était pas le sens de leur vie, et donc ils sont un peu désemparés. J'ai beaucoup reçu quand j'étais jeune, j'ai beaucoup appris, et je crois que maintenant que j'ai l'âge de Philippe Hirschhorn, quand il est tombé malade, hein, d'une certaine manière, parce qu'il est mort à 50 ans, j'ai 48 ans, donc je suis clairement de l'autre côté. J'apprends beaucoup en fait, en enseignant et en partageant la scène avec des jeunes musiciens. Pour moi, c'est une activité très importante dans ma vie, la transmission. Et j'ai des étudiants qui viennent un peu du monde entier, dont beaucoup jouent dans les dissonances. Ça fait aussi partie de ce que je peux leur transmettre. Et je crois beaucoup dans le partage aussi de la scène avec les jeunes. Et je vais développer dans les années qui viennent, pas seulement sous le format académique de l'université dans laquelle je suis en Allemagne, mais sous forme d'académies différentes qui voyagent en Europe et sous forme de festivals de musique de chambre. Donc je suis en train de créer une espèce de Marlboro européen qui va me permettre d'aller plus loin dans
les cigarettes, le festival. Hein.
Transmission, voilà, le festival de Marlboro, exactement.
Est-ce que vous aimez être sur scène?
Oui, j'adore être sur scène.
Vous avez du plaisir pendant, en y allant, vous avez le...
Bah, je suis angoissé comme tout le monde avant d'y aller, tension qui monte, l'adrénaline, tout ça. Mais j'aime le public, j'aime être sur scène, j'aime cette énergie, j'aime ce partage. Et comme je l'ai ressenti lors de cette année d'isolement, enfin, c'était tellement difficile en fait. Et tous ces concerts devant des caméras, c'était en fait une violence faite à soi-même. Et c'est vrai que là, le retour dans les salles, sentir les gens, sentir le silence des gens.
L'énergie collective,
L'énergie, oui, bien sûr, j'adore ça. Enfin, je ne tuerai pas père et mère pour aller sur scène.
Vous étiez vraiment en retrait des dissonances, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a plus David Grimal, comme si vous existiez plus tout seul.
Oui, c'est tout simplement en fait, comme je disais à un ami l'autre jour, j'ai voulu créer un truc où justement il n'y a pas de star, donc contre le star system, et ces 15 dernières années, le star system s'est développé encore d'une manière absolument invraisemblable. Donc ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne marche pas. Donc. Il faut maintenant que je joue le jeu, parce que sinon il n'y a rien qui va se passer. Et donc c'est pas l'idée. Et donc je rejoins ce que me disait mon père quand j'étais petit. Il faut être dans le système pour le changer.
Et vous avez mis 30 ans pour le comprendre ?
Je l'ai toujours su, mais je pensais pas que l'orientation du monde serait telle qu'elle a été ces 15 ou 20 dernières années. J'ai l'impression de vivre une dystopie un peu quand même. Si vous voulez, par rapport effectivement à l'éducation que j'ai reçue et les valeurs qui m'ont porté... On est très, 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 très loin, quand même. C'est invraisemblable, je comprends pas.
Vous avez grandi dans un milieu protégé, peut-être ?
Peut-être.
Et sinon, David Grimal, la prochaine étape, pour, c'est de devenir un musicien de cours ?
Je sais pas.
Plaire au ministère ?
Je ne suis pas certain qu'il faille devenir un musicien de cours. En attendant, ça serait bien d'avoir quand même un contact avec les gens au pouvoir... constructif. Mais je suis pas certain qu'on soit obligé d'être un musicien de cours, bien que la France ressemble un peu à la Russie et qu'il faut bien considérer que ça marche un peu comme ça.
Par exemple, il faut être aimable, il faut être mondain.
Mais je peux très bien être aimable, j'ai aucune agressivité vis-à-vis de quiconque, c'est pas le problème. Mais on peut quand même parler des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la culture, quel est l'objet, quel est le sujet. Après, moi, si on me dit, monsieur, ce que vous faites... est irrelevant, comme on dit en anglais, donc n'est pas pertinent et ça n'a pas de sens pour nous. Et donc nous ne le soutiendrons pas. Pour nous, le fait que vous fassiez ça, qu'il y ait ce succès, en fait, ça ne nous intéresse pas. Mais qu'on le dise, en fait. Mais je veux pas que le cadavre tombe sans aucune empreinte
digitale. Je veux quelques empreintes digitales dessus quand même.
Vous avez l'air d'être encore plein de révolte. Sinon, vous allez bien ?
Je vais extrêmement bien. Je ne suis pas sûr que ce soit une révolte. Je pense que c'est une vitalité. La vraie vitalité, c'est la vraie vie, comme disait Nietzsche. Donc je pense que c'est plutôt ça. C'est pas la révolte. Je suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. Je suis en train de dire, est-ce que ça a une valeur ? C'est différent, oui, c'est différent. Et est-ce que dans la musique classique, la musique savante, on a le droit aussi à la différence ? Comme dans le rock, comme dans le jazz, comme dans le théâtre, comme dans d'autres expressions artistiques, qui n'ont pas la même peine à renouveler leur public, curieusement d'ailleurs, et qui ont un public jeune. Alors pourquoi, quand on a cette proposition-là, qui crée une joie incommensurable sur scène et dans la salle, pourquoi il n'y a pas de soutien pour ça ?
Et si on fait nous-mêmes une dystopie ? Alors David Grimal prend sa retraite, c'est possible ça ?
Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut encore attendre un petit peu, parce que mes enfants sont petits. Donc on va en me voir encore un tout petit peu, je suis désolé.
Et si, qui devient chef d'orchestre d'une formation attitrée ?
Je crois pas. Je crois pas que ce soit la relation que je veux avoir. Parce que je pourrais le faire, je pourrais diriger un orchestre. Alors, je ferais bien ou mal, peu importe, je dirais, aux autres d'en juger, mais j'ai clairement les capacités de le faire. Mais je crois que ce n'est pas la relation que je cherche.
Donc l'avenir de David Grimal est avec les restes et sera toujours pour les dissonances ?
Je ne sais pas, on va voir. C'est difficile de savoir quel est l'avenir. En tout cas, je suis ouvert à énormément de choses et je pense que j'ai beaucoup d'énergie positive et beaucoup de choses encore à apprendre, à recevoir et à donner. Donc je suis plutôt dans un moment, en fait, paradoxalement, vous me demandiez si ça va bien, ça va extrêmement bien en fait. Je crois que j'ai jamais été aussi épanoui de ma vie. C'est peut-être ce qui me permet de poser les questions de manière claire.
Le lever du jour de Daphnis et Chloé de Ravel, que David Grimal décrivait comme l'un des grands moments de l'histoire de son ensemble Les Dissonances. C'est ainsi que se referment les grands entretiens qui lui étaient consacrés. Une émission réalisée par Gilles Blanchard, prise de son Laurent Macchietti, mixage Claire Levasseur, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles sur le site francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.